Chapitre 4, Union avec le Christ et amour fraternel. 1. Avec le Christ en Dieu. Le dessein de Dieu est que ses enfants soient pleinement unis. N'espère-t-il pas vivre ensemble dans le même ciel? Le Christ est-il divisé? Ses disciples pourraient-ils prospérer avant d'avoir ôté du milieu de toute discorde et toute critique? Qu'ils travaillent pour lui dans une parfaite unité, consacrant leur cœur, leurs pensées et leurs forces à cette œuvre sacrée. L'union fait la force. La désunion, la faiblesse. Unis les uns aux autres, œuvrant ensemble, dans l'harmonie, au salut de leurs semblables, ils seront ouvriers avec Dieu. Ceux qui refusent de le faire déshonorent le Seigneur. L'ennemi des âmes se réjouit lorsqu'il voit des enfants de Dieu se combattre les uns les autres. De telles personnes ont besoin de cultiver l'amour fraternel. Si elles pouvaient soulever le voile qui cache l'avenir, elles seraient certainement amenées à se repentir. L'union avec le Christ et avec les uns et les autres constitue notre seule sauvegarde. Le monde regarde avec satisfaction la désunion des chrétiens. Les impies s'en réjouissent. Le Seigneur désire qu'un changement se produise parmi son peuple. L'union avec le Christ et les uns avec les autres constitue notre seule sauvegarde en ces derniers jours. Ne laissons pas à Satan la possibilité de dire de nos membres, « Voyez comme ces gens, qui arborent la bannière du Christ, se haïssent. Je n'ai rien à craindre d'eux, puisqu'ils passent plus le temps à lutter les uns contre les autres qu'à combattre contre moi. » Après l'effusion du Saint-Esprit, les disciples partirent proclamer la bonne nouvelle d'un Sauveur ressuscité, et leur seul désir était de sauver des âmes. Ils jouissaient des douceurs de la communion des saints. Affectueux, prévenants, ils étaient disposés à faire n'importe quel sacrifice pour la vérité. Dans leurs relations quotidiennes les uns avec les autres, ils manifestaient l'amour que le Christ leur avait ordonné de révéler au monde. Ils s'efforçaient, par des paroles et par des actes désintéressés, d'allumer la flamme de cet amour dans d'autres cœurs. Les croyants devaient continuer à cultiver la charité qui remplissait le cœur des apôtres après l'effusion du Saint-Esprit, et aller de l'avant en obéissant aux commandements nouveaux, « Comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. » Étroitement unis en Christ, ils seraient rendus capables d'obéir à ses ordres. Ils magnifieraient la puissance d'un Sauveur qui pouvait les justifier par sa justice. Mais les premiers chrétiens commencèrent à regarder leurs défauts réciproques. En s'attardant sur leurs fautes, en se livrant à la critique, ils perdirent de vue le Sauveur et le grand amour qu'il avait manifesté envers le pécheur. Ils devinrent plus stricts concernant les cérémonies extérieures, plus pointilleux sur la théorie de la foi, plus sévères dans leurs critiques. Dans leur zèle à condamner leurs semblables, ils oubliaient leurs propres erreurs. Ils négligeaient les leçons d'amour fraternel que leur avait enseigné le Christ, et, ce qui est plus triste, ils étaient inconscients de ce qu'ils avaient perdu. Ils ne comprenaient pas que leur bonheur et la joie s'éloignaient d'eux, et que bientôt, ayant banni de leur cœur l'amour de Dieu, ils marcheraient dans les ténèbres. L'apôtre Jean, comprenant que l'amour fraternel disparaissait de l'Église, insistait tout particulièrement sur ce point. Jusqu'à sa mort, il supplia les croyants de persévérer dans l'amour. Ses lettres aux églises ont rempli de cette pensée. « Bien-aimés, disait-il, aimons-nous les uns les autres. Car l'amour est de Dieu. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. » Aujourd'hui, l'amour dans l'Église fait grandement défaut. Beaucoup de ceux qui prétendent aimer le Seigneur négligent d'aimer leurs frères. Nous avons la même foi, nous sommes membres de la même famille, tous enfants du même Père céleste. Nous avons tous la même espérance de participer un jour à la vie éternelle. Combien tendre et étroit devraient être les liens qui nous unissent. Le monde a les yeux sur nous pour se rendre compte si notre foi exerce une influence sanctifiante sur nos cœurs. Il est prompt à discerner nos défauts et les inconséquences de nos actes. Ne lui donnons aucune occasion de mépriser notre religion. L'harmonie et l'union constituent notre meilleur témoignage. Ce n'est pas l'opposition du monde qui nous fait courir les plus grands risques. Le mal que nous gardons dans nos cœurs est bien plus dangereux, et c'est lui qui retarde le plus l'avancement du règne de Dieu. Nous ne pouvons affaiblir davantage notre vie spirituelle qu'en étant envieux, en soupçonnant nos semblables, et en nous laissant aller à la critique et à la calomnie. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut. Mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. L'harmonie, l'union qui existe parmi les hommes aux dispositions diverses est le plus fort témoignage qui puisse être rendu du fait que Dieu a envoyé son Fils dans le monde pour sauver les pécheurs. C'est à nous qu'il appartient de rendre ce témoignage. Mais pour y arriver, il faut nous placer sous les ordres du Christ. Notre volonté étant soumise à la sienne, nos caractères seront en harmonie avec son caractère. Alors nous marcherons ensemble sans nous heurter. Lorsqu'on s'arrête aux petites divergences, on en arrive à des actes qui détruisent la fraternité chrétienne. Ne permettons pas à l'ennemi d'obtenir ainsi l'avantage sur nous. Approchons-nous toujours plus près de Dieu et plus près les uns des autres. C'est ainsi que nous serons des térébintes de la justice plantée par le Seigneur, et arrosées par le fleuve de vie. Que de fruits nous porterons alors? Le Christ n'a-t-il pas dit, « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. » Lorsque nous croirons vraiment à la prière du Christ, lorsque nous mettrons en pratique dans notre vie quotidienne les instructions qu'elle contient, on verra dans nos rangs l'unité d'action. Les frères seront unis aux frères par les chaînes d'or de l'amour du Christ. Seul l'Esprit de Dieu réalisera cette unité. Celui qui se sanctifie lui-même peut sanctifier ses disciples. Unis avec lui, ils seront unis les uns avec les autres dans la très sainte foi. Quand nous lutterons pour obtenir cette unité, comme Dieu le désire, elle nous sera accordée. Ce n'est pas le nombre de nos institutions, de nos grands bâtiments et le faste extérieur que le Seigneur agrée, mais l'action harmonieuse d'un peuple particulier, choisi par lui, bien uni, et dont la vie est cachée avec le Christ en Dieu. Chacun doit être à sa place, et exercer une bonne influence par ses pensées, ses paroles et ses actes. Lorsque tous les ouvriers du Seigneur feront cela, et pas avant, l'œuvre de Dieu sera parfaite. Le Seigneur fait appel à des hommes à la fois sincères et qui soient bien équilibrés, à des hommes qui sachent reconnaître le vrai du faux. Chacun devrait se tenir sur ses gardes, étudier et pratiquer les leçons contenues au 17e chapitre de l'Évangile selon saint Jean, et avoir une foi réelle dans la vérité pour notre époque. Il nous faut cet empire sur nous-mêmes qui nous permettra de nous conformer à la prière du Christ. Le cœur du Sauveur est sur ses disciples qui accomplissent l'œuvre de Dieu dans toute sa hauteur et sa profondeur. Ils doivent être un en lui, bien qu'ils soient dispersés dans le monde. Mais Dieu ne peut pas les rendre un en Christ s'ils ne sont pas disposés à renoncer à leur propre manière. 9.9. Collaboration. Lorsque l'on fonde les institutions dans de nouveaux champs, il est souvent nécessaire de confier des responsabilités à des hommes qui ne sont pas familiarisés suffisamment avec les détails de leurs tâches. Ils travaillent alors dans des conditions désavantageuses, et si leurs collaborateurs n'ont pas à cœur la bonne marche de la maison du Seigneur, cet état de choses risque de créer une situation qui nuira à sa prospérité. Il en est beaucoup qui pensent que leur genre de travail n'appartient qu'à eux seuls, et qu'ils n'ont de conseils à recevoir de personne. Mais ces ouvriers ignorent peut-être les meilleures méthodes pour accomplir leurs tâches. Cependant, si l'on s'aventure à leur donner un conseil, ils en sont offensés et sont plus que jamais décidés à suivre leur propre jugement. Par contre, certains ouvriers ne tiennent pas à venir en aide à leurs camarades. D'autres encore, inexpérimentés, cachent leur ignorance. Trop orgueilleux pour demander conseil, ils commettent des erreurs qui font perdre beaucoup de temps et d'argent. La cause de ces difficultés est facile à deviner. Alors qu'ils auraient dû se considérer comme les divers fils d'une même tapisserie, ils ont été comme des fils indépendants. Cet état de choses contriste le Saint-Esprit. Dieu veut que nous apprenions les uns des autres. L'indépendance nous place dans une situation telle qu'il ne peut collaborer avec nous, et Satan s'en réjouit. Chaque ouvrier sera mis à l'épreuve pour voir s'il travaille au progrès de l'institution du Seigneur ou pour ses propres intérêts. Le péché qui est le plus désespéré et incurable, c'est l'orgueil et l'autosatisfaction. Cela se trouve sur le chemin de toute la croissance. Quand un homme a des défauts de caractère, et pourtant n'en est pas conscient. Lorsqu'il est tellement autosuffisant qu'il ne peut voir ses défauts, comment peut-il être purifié? Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Comment quelqu'un peut-il s'améliorer lorsqu'il pense que ses voies sont parfaites? Seul un chrétien sans réserve peut être un véritable gentleman.